Il nous faut maintenant aborder une autre distinction fondamentale, celle entre les boulots qui n'ont pas de sens et ceux qui sont tout simplement de sales boulots. J'appellerai les seconds « jobs de merde », comme on le fait couramment. Je n'évoque cette question que parce qu'il est très fréquent qu'on les confonde, et c'est étrange car ils ne se ressemblent nullement. On pourrait même dire qu'ils sont diamétralement opposés. Les jobs à la con sont souvent très bien payés et offrent d'excellentes conditions de travail, mais ils ne servent à rien. Les jobs de merde, pour la plupart, consistent dans des tâches nécessaires et indiscutablement bénéfiques à la société. Seulement, ceux qui en sont chargés sont mal payés et maltraités. Évidemment, il existe des emplois qui, bien que désagréables en soi, apportent d'autres types de satisfaction. Vous connaissez cette blague sur le type qui travaille dans un cirque ? Son boulot, c'est de nettoyer les crottes des éléphants après le spectacle. Quoi qu'il fasse, il ne parvient pas à se débarrasser de l'odeur. Elle lui colle à la peau. Il a beau se changer intégralement, se laver la tête plusieurs fois, se récurer sans fin, il continue d'empester et fait fuir les femmes. Un ami finit par lui dire « Mais pourquoi tu t'infliges ça ? Il y a plein d'autres boulots que tu pourrais faire. » L'autre lui répond « Quoi ? Et tu voudrais que je quitte le show business ?» Pour cela, on ne saurait parler ni de job de merde, ni de job à la con, quel que soit leur contenu. D'autres métiers, comme les emplois de nettoyage classique, ne sont en rien dégradants par nature, mais peuvent aisément être rendus tels. Par exemple, là où j'enseigne actuellement, les personnels d'entretien sont très maltraités. À l'instar de ce qu'on observe désormais dans presque toutes les universités, leur travail a été externalisé. Ils ne sont pas employés directement par l'école, mais par une agence dont ils arborent le nom sur leurs uniformes violets. Payés des salaires de misère, ils doivent manipuler les produits chimiques dangereux qui leur abîment les mains et les contraignent parfois à prendre des congés non rémunérés pour se rétablir. Globalement, ils sont en butte à l'arbitraire et au manque de respect. Aucune raison particulière ne justifie un traitement aussi insultant. Mais au moins peuvent-ils ressentir une certaine fierté, et je suis témoin que c'était le cas de la plupart d'entre eux, à savoir que, sans eux, les activités de l'université ne pourraient se poursuivre puisqu'il faut bien que les bâtiments soient nettoyés. Au fil de mes recherches, j'ai rencontré un nombre surprenant, 3 pour être précis, de personnes titulaires d'un diplôme universitaire et qui, frustrées qu'ils ne leur permettent d'accéder qu'à des emplois de bureau absurdes, avaient décidé de devenir agents d'entretien simplement parce que cela leur donnait le sentiment de faire quelque chose d'honnête pendant leur journée. Et elles ne regrettaient absolument pas leur choix. En règle générale, les jobs de merde sont des boulots de col bleu, payés à l'heure, tandis que les jobs à la con sont des boulots de col blanc salariés. Les gens qui ont des jobs de merde sont souvent traités de façon indigne. Non contents de se tuer à la tâche, ils sont par-dessus le marché, tenus en piètre estime pour cette raison même. Mais ils savent qu'ils font quelque chose d'utile. Les gens qui ont des jobs à la con, eux, sont auréolés d'honneur et de prestige. Ils sont respectés en tant que professionnels, bien payés, admirés, passent pour des personnes qui ont réussi et qui peuvent en être fiers. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils sentent qu'ils sont loin d'avoir réussi quoi que ce soit. Ils n'ont rien fait pour mériter les joujoux avec lesquels ils remplissent leur vie de consommateurs gâtés. Ils soupçonnent que tout cela ne repose que sur un énorme mensonge. Et de fait, c'est le cas. Ce sont là deux formes très différentes d'oppression, et je n'ai aucunement l'intention de les mettre sur le même pied. Je connais peu de gens qui seraient prêts à échanger un poste oiseux de cadre moyen contre un boulot de terrassier, même s'ils savent que le terrassement est une tâche indispensable. Je veux simplement souligner ici que chacune de ces formes est violente à sa manière. Par ailleurs, il est possible d'avoir un boulot qui soit à la fois un job de merde, et un job à la con, sans doute la plus terrible des combinaisons qu'on puisse imaginer. Pendant qu'il purgeait sa peine dans un bagne de Sibérie, Dostoïevski a développé une théorie. La pire torture concevable, c'est de forcer quelqu'un à exécuter sans fin une tâche qui ne rime manifestement à rien. Les prisonniers envoyés en Sibérie, notait-il, avaient été condamnés aux travaux forcés. Mais en réalité, ces travaux n'étaient pas si durs. La plupart des paysans devaient accomplir des tâches bien plus pénibles. Cependant, les paysans, eux, travaillaient au moins en partie pour leur propre compte. La vraie difficulté du travail pour le prisonnier, c'était qu'il n'en retirait strictement rien. Voici un extrait de « Souvenir de la maison des morts » de Dostoïevski. Il m'est venu un jour à l'idée que si l'on voulait réduire un homme à néant, le punir atrocement, l'écraser tellement que le meurtrier le plus endurci tremblerait lui-même devant ce châtiment et s'effraierait d'avance, il suffirait de donner à son travail un caractère de complète inutilité, voire même d'absurdité. Les travaux forcés tels qu'ils existent actuellement ne présentent aucun intérêt pour les condamnés, mais ils ont au moins leur raison d'être. Le forçat fait des briques, creuse la terre, crépit, construit. Toutes ces occupations ont un sens et un but. Quelquefois même, le détenu s'intéresse à ce qu'il fait. Il veut alors travailler plus adroitement, plus avantageusement. Mais qu'on le contraigne, par exemple, à transvaser de l'eau d'une tine dans une autre et vice-versa, à concasser du sable ou à transporter un tas de terre d'un endroit à un autre pour lui ordonner ensuite la réciproque, je suis persuadé qu'au bout de quelques jours, le détenu s'étranglera ou commettra 1000 crimes comportant la peine de mort plutôt que de vivre dans un tel abaissement et de tels tourments. Mon ami Andrei Groubatchich m'a raconté que ce type de torture avait été infligé à son grand-père dans un camp de rééducation yougoslave sous Tito dans les années 1950. De toute évidence, les geôliers connaissaient leur classique. De l'erreur courante qui voudrait que les jobs à la con soient majoritairement cantonnés au secteur public. Dans les pages qui précèdent, nous avons défini trois grandes catégories d'emplois. Les jobs utiles, qu'il s'agisse ou non de jobs de merde, les jobs à la con, et une frange peu reluisante, bien que réduite, comprenant des métiers tels que gangster, marchand de sommeil, avocat d'affaires de haut vol ou encore directeur de fonds spéculatifs, c'est-à-dire composé de gens qui ne sont rien d'autre que des salauds égoïstes et qui ne cherchent pas vraiment à le cacher. Il me paraît juste de postuler que ceux qui occupent ces emplois sont les mieux placés pour savoir à laquelle des trois catégories ils appartiennent. Cette liste en trois volets ne prétend pas être exhaustive. Avant de passer à l'exposé de ma typologie des jobs à la con, je voudrais faire un point sur quelques idées fausses largement répandues. Si vous balancez l'expression « job à la con » à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu auparavant, il croira d'abord que vous voulez parler des jobs de merde. Et une fois que vous aurez clarifié le concept, il risquera fort de penser que vous évoquez l'un de ces deux stéréotypes courants, les bureaucrates de gouvernement, ou bien, si les fans de la saga de Douglas Adams, le guide du voyageur galactique, les coiffeurs. Commençons par les bureaucrates. Des deux stéréotypes, c'est le plus facile à démonter. Peu de gens contesteront que le monde soit rempli de bureaucrates qui ne servent à rien. Mais le plus important, c'est qu'ils semblent désormais pulluler tout autant dans le privé que dans le public. Cet insupportable petit bonhomme en costume qui vous récite une litanie de normes et de règlements incompréhensibles, vous avez autant de chances de le rencontrer à la banque ou dans une boutique de téléphonie qu'au bureau de délivrance des passeports ou au service de l'aménagement du territoire. Pire, les bureaucraties publiques et privées sont tellement entremêlées qu'on ne parvient plus à les distinguer. Voilà pourquoi j'ai choisi de commencer ce chapitre avec Kurt, dans son entreprise privée sous-traitante de l'armée allemande. Son récit, outre qu'il prouvait combien il est faux de penser que les jobs à la con sont l'apanage des bureaucraties d'État, montrait aussi que les réformes de marché ont presque toujours pour effet de créer plus de paperasse qu'elles n'en suppriment. C'est ce que j'appelle la loi des reins du capitalisme dans mon précédent livre « Bureaucratie ». Plaignez-vous auprès d'un haut responsable de votre banque qu'on vous inflige un vrai parcours du combattant bureaucratique et il vous dira à coup sûr que c'est la faute des réglementations gouvernementales. Pourtant, il ne vous faudra pas chercher longtemps pour découvrir que ces règles émanent en majorité de la banque elle-même. Il n'empêche, l'idée que toute administration est nécessairement hypertrophiée, affligée d'emplois surnuméraires et de niveaux hiérarchiques superflus, tandis que le secteur privé serait ultra-léger et efficace, est si bien ancrée dans les esprits qu'elle ne semble plus pouvoir en être délogée, quelles que soient les preuves contraires apportées par la réalité. Il ne fait aucun doute que ce lieu commun doive une partie de sa longévité au souvenir qu'a laissé l'expérience soviétique. L'URSS, adepte de la politique de plein emploi, se retrouvait à devoir créer des jobs pour tout le monde, qu'ils répondent ou non à un quelconque besoin. C'est ainsi qu'on a fini par voir des magasins où les clients passaient entre les mains de 3 vendeurs différents pour acheter une miche de pain, ou bien des équipes de cantonniers dans lesquelles vous étiez sûr de surprendre au moins 2/3 des ouvriers à boire, jouer aux cartes ou somnoler dans un coin. Ce genre de tableau est toujours évoqué comme l'exemple même de ce qui ne pourrait jamais se produire dans un système capitaliste. La dernière chose qu'on attende d'une boîte privée mise en concurrence avec d'autres boîtes privées, c'est bien qu'elle embauche des gens dont elle n'a pas réellement besoin. La récrimination classique à l'égard du capitalisme serait plutôt qu'il soit trop efficace, les employeurs s'acharnant sans relâche sur leurs salariés à coups d'accélération de cadence, de quotas et de systèmes de surveillance. De fait, ce dernier point se vérifie très souvent et ce n'est pas moi qui vais le nier. La pression exercée sur les entreprises pour qu'elles dégraissent et améliorent leur rentabilité a redoublé depuis la frénésie de fusion et acquisition des années 1980. Cependant, elle a frappé presque exclusivement les travailleurs situés à la base de la pyramide, ceux qui fabriquent, entretiennent, réparent ou transportent des choses. En somme, toute personne contrainte de porter un uniforme dans l'exercice quotidien de ses fonctions a des chances de la subir. On pourrait même dire que c'est là la finalité majeure du port de l'uniforme. Les personnes à qui on l'impose sont généralement celles que le public ne voit jamais, par exemple, les employés des blanchisseries d'hôtels. Et c'est une manière de leur dire « Rappelez-vous qu'ici, vous êtes comme à l'armée ». Prenez les livreurs de FedEx et d'UPS, par exemple. Ils ont des emplois du temps éreintants, conçus en vertu d'une recherche de la rentabilité toute scientifique. Mais aux échelons supérieurs de ces mêmes compagnies, il en va tout autrement. Pour expliquer ce contraste, on peut, si on le souhaite, remonter à l'aube du culte managérial de la rentabilité et rappeler quel a été son talon d'Achille. Curieusement, quand les dirigeants d'entreprise ont commencé à étudier scientifiquement les modes d'utilisation des ressources humaines les plus efficaces en termes de temps et d'énergie, ils ont négligé de s'appliquer ces techniques à eux-mêmes. Ou alors, s'ils l'ont fait, cela semble avoir produit l'effet inverse de celui escompté. Par conséquent, dans presque toutes les grandes firmes, la période qui a vu s'abattre sur les cols bleus les accélérations de cadence et les réductions d'effectifs les plus impitoyables a également vu proliférer les postes inutiles dans l'encadrement et l'administration. C'est comme si ces boîtes passaient leur temps à tailler dans la graisse des ateliers de production et utiliser les économies ainsi réalisées pour embaucher toujours plus de salariés superflus aux étages supérieurs dans les bureaux. Comme nous le verrons, c'est ce qui s'est passé dans certains cas, littéralement. Ainsi, de même que les régimes socialistes avaient créé des millions d'emplois ouvriers de façade, les régimes capitalistes ont créé tout autant d'emplois factices, mais chez les cols blancs. Quel a été le processus? Nous explorerons cette question en détail un peu plus loin. Pour l'instant, je veux surtout mettre en évidence ceci. presque toutes les dynamiques que nous allons décrire sont à l'œuvre, aussi bien dans le public que dans le privé. Et cela n'a rien de très surprenant dans la mesure où les deux secteurs sont devenus quasiment impossibles à démêler l'un de l'autre.